Bien sûr, je rêve.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est Le Énervé la suite et ce soir, retour sur un va-et-vient qui suscite pas mal de commentaires, une sorte de jeu musical entre deux mondes déjà suspectés d'entretenir des liaisons plus que dangereuses. On voit quelques journalistes s'engager auprès des politiques, je pense à Bruno Roger Petit, l'éditorialiste de Challenge, aujourd'hui en porte-parole de l'Élysée. Et mouvement inverse, on assiste aussi à une reconversion médiatique de certains politiques qui ont pour la plupart perdu leur siège, comme Aurélie Filippetti aujourd'hui sur RTL. Le mercato médiatique de cette année a donc eu lieu dans la sphère politique. C8, France 2, en passant par Europe 1, RTL ou Sud Radio, les médias seraient partis à la recherche des nouvelles stars de leurs émissions de débat directement chez les politiques. Alors c'est le sujet du Énervé la suite ce soir.
Et oui.
On en parle avec vous, Christophe Bourseiller, et nos invités. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes responsable du service politique de France 2. Bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, Bertrand Delay, vous êtes journaliste et documentariste indépendant. Bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous, Julien Drey, vous êtes toujours conseiller régional PS en Ile-de-France et nouveau chroniqueur sur LCI. Bonsoir à vous.
Je ferai une remarque tout à l'heure, moi je ne suis pas chroniqueur.
Ouais, alors vous êtes quoi sur LCI?
Je fais un débat politique avec M. Béthou, donc je ne fais pas de chronique.
D'accord.
Bon, j'ai vu que j'étais embarqué dans cette histoire, mais j'ai un statut différent. Bon, excusez-moi.
Très bien. Et Roselyne Bachelot, co-animatrice de l'émission La République LCI, tous les matins sur LCI. Puis chaque vendredi, on vous retrouve dans la matinale de Saskia Deville sur France Inter.
C'est bonsoir.
Musique. Hein, France Musique.
France Musique, oui. France Inter, c'est ce soir.
C'est doux.
Le NRV, la suite au Parti des médias. C'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Bourseiller, vous qui êtes éditorialiste et non pas chroniqueur dans le NRV.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a inspiré?
Bah écoutez, beaucoup de choses et en même temps, c'est un exercice périlleux, difficile. Savez Laurent. Oui, parce que c'est plus joli. Oui, c'est plus élégant que de dire vous savez.
Ouais.
Donc savez Laurent. Savez Laurent. Le journalisme, au fond, c'est comme le mariage. Quand on est célibataire, on rêve d'y accéder. Et quand on y est enfin, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Prenez Sciences Po. Nombre de jeunes étudiants rêvent de devenir de grands reporters. Ils se voient en baroudeur, mâchouillant un cigarillo dans le hall d'un grand hôtel, tout en sirotant un whisky et en tapant un article incendiaire qui restera dans les annales et leur vaudra, je l'espère pour eux, le prix Albert Londres. Mais lorsqu'un tout jeune journaliste pénètre enfin dans le sein des saints, le cénacle d'une rédaction, ce qu'il sent d'abord, c'est l'odeur du tabac froid mêlé à celle des vieilles chaussettes. Oui, la vie du journaliste est cousue de routines et ponctué de brèves décharges d'adrénaline au gré d'une actu qui parfois semble éternellement se répéter. En automne, les ouragans, la rentrée des classes, les grèves, la Toussaint, et il en va ainsi chaque année. Là-dessus se greffe une authentique crise de la presse écrite qui touche de plein fouet les quotidiens. La révolution numérique ne fait pas de cadeaux et on compare souvent le journalisme écrit à la sidérurgie. Dès lors, comment s'étonner de voir un nombre grandissant de journalistes s'éloigner de la profession maudite? Claude Sérillon, Bruno Roger Petit, Laurence Haïm, Joseph Massescaron ont franchi le miroir en file indienne. Mais comment se fait-il que les politiques, à leur tour, se précipitent aujourd'hui dans les médias? Certes, nos députés, nos leaders ont toujours eu besoin des journalistes, sans exception. Tout en fustigeant les médias, Jean-Luc Mélenchon ne manque pas de s'y précipiter. Mais quand l'insoumise Raquel Garrido rejoint l'équipe de Thierry Ardisson sur Canal+, sur C8, quand l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti rallie Marc-Olivier Fogel sur RTL, quand Henri Guénaud devient journaliste à Sud Radio, et quand Julien Drey fait de même, il va nous dire si c'est le cas, à LCI, on ne peut que s'interroger. Assiste-t-on à la célébration barbare des noces incestueuses de la presse et du monde politique? Cette vague de reconversion ne risque-t-elle pas de décrédibiliser aussi bien les journalistes que les politiques? On imagine, Laurent, une gigantesque orgie, un banquet digne de Jérôme Bosch, dans lequel journalistes et hommes politiques se mêleraient en un sabbat transgresseur. Et la démocratie sort-elle meurtrie de ce mélange des genres? Ou bien doit-on considérer, d'une part, qu'un journaliste est tout à fait qualifié pour occuper une fonction de communicant officiel, d'autre part, qu'un politique est parfaitement capable de se livrer à une analyse objective, voire journalistique? Alors, Nathalie Saint-Cricq, merci d'être venue. Nathalie Saint-Cricq, les journalistes qui entrent en politique en acceptant des postes gouvernementaux vont-ils simplement, selon vous, à la soupe.
Non, je pense que ça serait un peu caricatural et puis méchant de dire ce genre de choses. La seule chose qui peut jeter un peu de discrédit sur les journalistes, c'est quand on revient sur les papiers qu'ils ont pu faire avant de sauter le pas. Et c'est ça le vrai problème, parce qu'on peut très bien considérer qu'au bout d'un moment, on a fait le tour du journaliste, qu'on en aura le bol de raconter ce que les autres font et qu'on a peut-être envie de faire soi-même. On a le droit de changer de vie, on a le droit de passer à autre chose. Mais quand on se rend compte que dans les 6 mois qui ont précédé, j'ai pas quelques idées en tête, il y a eu un certain nombre de papiers ou d'actes de journalisme, en tout cas présentés comme tels, un certain nombre de reportages ou d'éditos, et qu'on se rend compte que finalement la personne était déjà très proche de la personne dont il parlait, ça peut poser un léger problème. Et puis ça, franchement, les gens peuvent se dire « Ah, bah alors tout ce qu'on nous a raconté pendant les 6 mois, bah, c'était, voilà, il était déjà de l'autre côté. » Donc, il n'y en a pas énormément quand même. En tout cas, c'est un aller sans retour, parce qu'il y a eu des cas aussi avec Catherine Pégard,
exactement,
qui est allée travailler avec Nicolas Sarkozy. Elle a fait autre chose par la suite. Je ne vais pas critiquer mes confrères, parce que ça serait désagréable, puis ils ne sont pas si nombreux, mais je ne suis pas persuadée quand même que ça nous aide à nous remonter dans l'opinion des gens, alors qu'on est déjà très très mal vu.
Bertrand Delay ?
Non, mais je pense qu'il faut, dans les journalistes, il faut distinguer les journalistes d'enquête, où là, je peux rejoindre ce que dit Nathalie, et l'éditorialiste. Par définition, l'éditorialiste, il donne son idée, il donne son avis, il est payé pour ça. C'est-à-dire que, on va pas demander à un éditorialiste du Figaro, s'étonner si après il va travailler pour Fillon. Je suis absolument désolé. Un éditorialiste, par définition, est un journaliste d'opinion. Et donc, je vois pas le...
Où vous exercez votre fonction d'éditorialiste. Si vous êtes au Figaro, dont on peut considérer que c'est un journal engagé d'une certaine manière, ou à Libération, quand vous travaillez dans un médium un peu plus large, ça peut être une radio, ça peut être une télévision, si au bout d'un moment on se rend compte que tous les papiers que vous avez fait à la gloire,
son opinion, il est payé pour ça.
Fillon ou Macron ou n'importe qui, on peut se dire, bah, c'est bien foutu de notre tête pendant les 6 mois qui ont précédé. C'est tout ce que je veux dire.
Bruno Roger Petit a soutenu ouvertement Macron. Il est venu d'ailleurs dans cette émission en tant qu'invité pour défendre les positions d'Emmanuel Macron. Finalement, qui se retrouve aujourd'hui porte-parole de l'Élysée.
Ah bah, il y a une certaine logique.
Il y a une certaine logique politique.
Oui, Bertrand Delay, vous signez qu'il était un challenge, oui.
Oui, et challenge. Alors, challenge.fr, plutôt, ouais. Le site internet, puisqu'il fallait bien dissocier les deux, a eu toujours, pendant un long moment, parce que c'était le bébé chéri de Perdriel, et Perdriel l'a dit lui-même, qu'il avait pour Macron les yeux de chimène, et il y a une forme de cohérence à la fois éditoriale, capitalistique...
Attendez, c'était pas une attaque, c'était simplement ne pas tromper les auditeurs, ou les téléspectateurs, ou les lecteurs sur la marchandise. C'est-à-dire dire, à titre personnel, où je suis proche, où je le soutiens, où j'ai telle ou telle relation, mais que les gens, on a le droit de défendre qui que ce soit, mais on le dit. Voilà, c'est tout. Et on annonce la couleur.
Roselyne Bachelot, vous qui avez longtemps été de l'autre côté, qu'est-ce que peuvent apporter les journalistes aux politiques ? Comment vous regardez justement ce transfert, on va dire, de compétences ?
Je le regarde avec intérêt. Ce que je regrette, c'est qu'on met des choses très différentes dans le même sac.
Pensez à quoi ?
Il y a évidemment des gens comme Julien Drey qui sont des hommes politiques, qui n'ont pas renoncé à être des hommes politiques.
Bien
et
sûr.
Qui viennent sur un plateau de télévision pour défendre leurs idées. Et Julien n'est pas rémunéré. Des hommes politiques qui sont sur les plateaux de télévision, il y en a toujours eu, il y en a plein. C'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus. Hein, c'est...
Avec moi, beaucoup.
et avec toi, et beaucoup. Donc là, il y a une fonction tout à fait particulière, qui est parfaitement claire, qui est parfaitement transparente. Il y a ensuite des gens comme moi, qui ont complètement sauté le pas.
Et renoncé à la vie politique.
Renoncé à la vie politique. Qui ne l'ont pas fait à la suite d'un échec électoral, qui ont décidé...
Là,
à
vous pensez
moment...
à d'autres personnes.
Oui,
vous pensez à Aurélie Filippetti,
voilà,
par exemple.
Je pense à qui on veut, mais en tout cas, je pense à moi d'abord, puisqu'on me demande mon avis,
bien
je
ne
pas de jugement sur les autres, mais qui ont fait un choix parfaitement inscrit et structuré, un choix longtemps mijoté à l'avance, et je pense avoir certaines qualités dans ce métier, dans cette formulation, et d'ailleurs je l'ai prouvé à travers différentes émissions. Donc j'ai changé de vie dans une rivière sans retour, et je reprends tout à fait la phrase de Nathalie Saint-Cricq, je crois que dans ce choix qu'on fait, que l'on passe du journalisme à la vie politique, ou de la vie politique au journalisme, ça doit être un Rubicon.
Je vous fais remarquer que François Mitterrand est passé de la vie politique pendant l'occupation, au journalisme à votre beauté,
oui, mais si
puis
vous choisissez, si vous choisissez François Mitterrand comme référence morale, vous risquez d'avoir certaines déconvenues.
On va polémiquer tard.
Voilà,
on est parti pour jusqu'à 1h du matin avec Julien Drey.
C'était une autre circonstance. Vous revendiquez d'être le rédacteur en chef de votre beauté, ça ne m'étonne pas de vous. puisque c'était cela la fonction qu'il exerçait.
Il y a des traités de la politique. Ah, Jean-Pierre Raffarin, puisque tout à l'heure aussi, Roselyne Bachelot, on mélange tout. Il y a des gens qui ont arrêté. Il y a des gens, je parle l'émission de Delahousse, par exemple. Raffarin, il vient, il donne son avis, on sait qu'il y a Raffarin, il n'y a pas de tromperie.
Il a fait d'ailleurs une excellente.
Il n'y a pas de tromperie non plus. Tout à l'heure, vous parliez de Raquel Garrido, c'est plus compliqué
c'est
ça.
Autre chose,
c'est alors justement, j'en venais à ma troisième catégorie. Ah. Et donc, il y a le cas très particulier de Madame Garrido, qui, elle, a choisi de considérer M. Bolloré comme un idiot utile. Et elle veut casser le système qui est représenté par Monsieur Bolloré, le système capitaliste et médiatique de Monsieur Bolloré. Elle se fait payer par lui, ce qui est d'un raffinement sadique, d'une grande beauté.
Selon Jean-Michel Apathy de France Info, qu'un politique se reconvertisse à la télévision, c'est moins choquant que de voir un journaliste devenir porte-parole de l'Élysée. Vous êtes d'accord, Julien Drey?
Non, mais je voudrais juste dire que je corrobore ce que vient de dire.
Donc vous n'allez pas répondre à la question.
Non, si, moi je réponds toujours aux questions. Je corrobore ce que vient de dire mon ex-collègue député. Elle est devenue journaliste, et une bonne journaliste de talent, agréable à voir à la télévision, comme elle était agréable à voir d'ailleurs comme députée. Mais bon, elle a changé de métier. Bon, voilà. Et ça, on a le droit, et Nathalie l'a dit, etc. Après, il y a eu cet été un truc qui m'a, moi, gêné, parce que. Moi, je fais mon travail de responsable politique. On me demande d'animer le débat politique, j'anime le débat politique. Une émission de télé m'est proposée de manière régulière, que je faisais d'ailleurs il y a 2 ans avec Thierry Mariani. Donc personne ne m'avait rien dit à l'époque. Bon, et j'avais même eu... Alors, on peut faire une confidence. J'avais même été voir, il y a quelques années, Roselyne, mais à l'époque, elle n'était pas encore totalement journaliste. Elle avait dit, tu sais, ce qu'on pourrait faire tous les deux, c'est de faire une émission politique de débat où on ferait une expertise politique. Bon, mais elle m'avait dit elle-même qu'elle était dans un... Bon, mais voilà, ça c'est un domaine politique. Après, c'est vrai qu'il s'est passé un truc bizarroïde cet été, je le dis honnêtement. Moi, j'étais un peu étonné de voir... Des gens qui n'avaient pas vocation au point de départ à faire ça sont venus, arrivés. Après, c'était une course à l'échalote, avec un effet de mode d'ailleurs, j'ai l'impression. Hein, dans les radios, chacun voulait avoir son politique.
Parce que, exactement. Bon,
même mon collègue Édouard Cipel, qui est un bon collègue, mais il a été à Sud Radio.
Des gens qu'on n'attendait pas du tout dans cet exercice.
Hein. Et des gens qu'on n'a pas d'état.
Imaginaient d'ailleurs, à mon avis, que c'était très provisoire, que c'était juste une manière de poursuivre finalement un dialogue avec les lecteurs à travers des fonctions
momentanées. Et là, si vous me permettez, je pense qu'on est rentré dans la confusion. Voilà. Je vais même vous dire la vérité. Je me suis même posé la question fin du mois d'août en disant, je vais arrêter parce que je suis pris dans. Alors après, en même temps, je me suis dit, c'est bien. Mon nom, il sert à quelque chose. Au moins, il attire parce que visiblement, on m'a mis là-dedans.
Ah
parce
oui,
que
ça vous permettait, êtes mis dans, exactement.
Ça permettait
dans le même,
d'attirer le client, quoi. Bon. Ça, voilà, à mon âge, si encore on peut faire ça. Moi, ça m'a gêné. Voilà, je le dis honnêtement. Cette abondance.
Moi, je pense pas qu'il s'agit d'une mode. Je pense qu'il s'agit d'un phénomène très profond qui est porté par deux éléments qui se rencontrent. C'est d'un côté la montée des chaînes d'information et de l'autre le VOD. C'est-à-dire que d'un côté, le VOD a besoin, la vidéo à la demande, a besoin de créer des personnages de romans, a besoin de contenu de fiction. Et on a vu le personnage...
Storytelling, donc. Ouais.
On a vu le personnage politique devenir un personnage constitutif de cette fiction à travers l'ancêtre qu'a été The West Wing, House of Cards, et en France, Baron Noir ou l'état de grâce. Donc le personnage politique est devenu en soi un personnage de roman. Et de l'autre côté, la montée des chaînes d'information a fait qu'il faut du contenu pendant toute une journée. Quand il y a un journal, le journal factuel, le journaliste est là, ça dure une demi-heure. Là, il faut alimenter tout au long de cette journée l'intérêt du spectateur, du téléspectateur. Et on s'est rendu compte dans ces chaînes d'information que le politique devenu personnage de roman était par ses aspérités un faiseur d'audience. Quand on met cela, la fiction et les chaînes d'information en parallèle, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une mode, mais qu'il s'agit partie de quelque chose qui va devenir constitutif de du paysage médiatique. On aurait tort de
penser. C'est la néo-démocratie.
On aurait tort de penser qu'il s'agit d'une coïncidence.
Alors, on va revenir sur ce débat dans quelques instants. J'ai vu, Bertrand Delay, que vous étiez sur le point de prendre la parole, mais tout de suite, encore une liaison, pas dangereuse cette fois, c'est Gauthier & Kimbra, un duo belgo-australien néo-zélandais avec ce titre qui a reçu un Grammy Award, Somebody That I Used To Know. C'est sur France Inter. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
Je ne pense pas que le leader coréen soit un fou.
Rendez-vous.
D'abord, permettez-moi de vous dire que je vous réponds, non pas en journaliste, mais je suis et je reste un spécialiste de la vie publique. J'ai été engagé 40 ans, je suis désintéressé et je le fais avec un maximum de conviction.
Sur France Inter.
Parce que je trouve que l'information doit être complète.
Politique et médias, liaison dangereuse, c'est le sujet de l'énervé ce soir. On en parle avec nos invités. Nathalie Saint-Cricq, journaliste à France 2, Bertrand Delay, documentariste, Julien Drey et l'UPS et intervenant sur LCI. Roselyne Bachelot, désormais animatrice et chroniqueuse à la télé comme à la radio. On vient d'entendre Jean-Pierre Raffarin, désormais dans la nouvelle émission d'actualité de France 2, animée par Laurent Delahousse. On écoute d'ailleurs Laurent Delahousse qui s'explique sur ce choix de casting au micro de Sonia De Villers. C'était vendredi dernier dans l'Instant M sur France Inter.
Quand j'ai entendu certains journalistes éditorialiser, effaroucher d'entendre une forme de collusion, de mélange des genres entre les hommes politiques, je rigole doucement. Ces mêmes personnes qui écrivent ces papiers, ces éditos, dînent des jeunes avec ces hommes politiques depuis tant d'années. Pourquoi Jean-Pierre Raffarin ne pourrait pas venir aujourd'hui, parce qu'il est retraité de la vie politique, apporter son regard sur Kim Jong-un alors qu'il a une expérience et une expertise de l'Asie et de la Chine peut-être bien meilleure que beaucoup d'autres? Je ne comprends même pas l'idée que l'on puisse envisager que des journalistes restent journalistes, que des hommes politiques qui ont pris leur retraite ne puissent plus venir apporter leur regard sans qu'on ait l'impression quoi, que l'on devient partisan parce qu'on reçoit Jean-Pierre Raffarin.
Une réaction de Télé 5 Cric, vous qui êtes responsable politique de France 2.
Mais attendez-moi, Jean-Pierre Raffarin, on sait qui c'est, il intervient, il dit pas qu'il est journaliste, il dit pas qu'il est objectif, il dit qu'il pense des choses, et c'est parce qu'il pense des choses et qu'il a fait des choses qu'on le fait venir. Donc une fois de plus, les choses sont claires. Ce qui n'est pas bien, enfin ce qui me semble pas bien, j'ai pas une autorité morale donc j'ai pas de bon point et de mauvais point, c'est quand on trompe les gens. C'est-à-dire que les gens qui écoutent, de même que si on invite quelqu'un de la France Insoumise sans dire qu'il est de la France Insoumise et qu'on lui parle comme si c'était un type lambda, je ne trouve pas ça bien. Que si on a un syndicaliste CGT et qu'on ne dit pas qu'il est CGT, qu'on, voilà. Et que ce soit et quelqu'un du, et imaginons qu'on fasse venir un chroniqueur Front National, j'entends, là pour le coup, il y aurait une levée de bouclier. Donc il y a des choses autorisé pour certains et pas pour d'autres. Oui. Il ne faut pas tromper les gens qui écoutent.
Mais enfin, juste une chose sur Jean-Pierre Raffarin, quand même, qui avait fait siffler les journalistes, on s'en souvient, pendant la campagne, dans un meeting de Fillon. C'est quand même un curieux choix pour un média que de l'embaucher. Comment vous percevez ça, Bertrand Delay?
Alors, moi, je suis pas surpris parce que ça, c'est le documentariste qui parle. Il se trouve que j'ai toujours eu beaucoup de bonheur à interviewer Raffarin pour une raison simple, c'est que je pense que c'est un des rares journalistes, un des rares politiques. Qui était très intéressant parce qu'il a une grande distance par rapport à sa propre fonction. Ça va, Julien. Il a une grande distance par rapport à sa propre fonction politique. Et je conçois que dans une émission où finalement on va débattre, où lui maintenant est en retrait, je conçois assez aisément, ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, c'est un bon client, Raffarin.
Quand t'as sifflé les journalistes, c'est pas lui qui a la palme. Hein.
Ah oui, mais enfin, il l'a fait aussi.
Parce que là, de façon marginale, parce qu'il a toujours été correct avec les journalistes pour avoir travaillé avec lui, là, les endroits où on se fait siffler, où ça se passe mal, c'est plutôt du côté de chez Jean-Luc Mélenchon.
Ou du Front National.
J'allais le dire.
Ça pose la question de Raquel Garrido, évidemment.
Oui, alors j'en reviens à Raquel Garrido. On a atteint, je crois, le sommet de la confusion lors de la fameuse conférence de presse d'Édouard Philippe, où Raquel Garrido obtient une accréditation au nom de l'émission de Thierry Ardisson, L'Éthérien du Dimanche.
Ce qui est curieux comme accréditation pour un
Oui, mais on ne lui aurait pas donné, ça devenait un autre problème.
C'est ça qu'il répond.
Et donc, elle se présente, elle se lève, elle pose sa question, elle dit « Raquel Garrido, L'Éthérien du Dimanche ». Je dois dire que je suis resté quand même interloqué, estomaqué, parce qu'elle a quand même un rôle de porte-parole officiel quand on regarde sur Internet l'organigramme de la France Insoumise. Elle est une des porte-paroles de la France Insoumise. Alors ça pose un problème de présentation. La moindre clarté, je ne veux pas dire honnêteté, parce que je ne veux pas donner une valeur morale à cette affaire, quoique la moindre clarté aurait été de dire Raquel Garrido, la France Insoumise, L'Éthérien du Dimanche. Mais alors ça posait un autre problème. Si des représentants des partis politiques ont le droit d'être partie prenante à une conférence de presse dédiée aux journalistes...
Eh bien ça décrédibilise une conférence de presse.
Exactement.
Ça en fait un spectacle, ça en fait un lieu où on veut être vu. Julien Drey.
Non, je suis d'accord. Moi je pense qu'il y a une confusion. Il y a plusieurs confusions. La première, c'est qu'elle est rémunérée. Donc c'est une salariée. La deuxième, c'est que c'est une émission de divertissement, c'est pas une émission politique.
Ça lui l'était rien.
Et la troisième, c'est que l'idée qu'elle va de l'intérieur changer les choses, je prends mes paris, si vous voulez, je pense que c'est elle qui va changer et c'est pas le système qui va changer.
A-t-elle eu l'accord de Jean-Luc Mélenchon?
Alors, certainement,
Mélenchon l'a défendu, mais
mordicus.
Mais Mélenchon l'a défendu jusqu'au jour où il n'arrivera plus à la défendre parce que effectivement, elle va se faire happer par ce système. Parce que moi, elle aurait dit. Monsieur Ardisson me donne une carte blanche politique à un moment donné pour faire une prise de parole. Et d'ailleurs, parce que ça aurait été à son honneur, on m'a proposé d'être énuméré. J'ai refusé pour garder d'ailleurs toute mon indépendance. On n'aurait rien eu à dire. Là, c'est autre chose. Là, il y a effectivement une confusion des gens.
Elle n'est pas dans un rôle de carte blanche politique. Elle devient une animatrice comme les autres.
C'est pour ça que je pense qu'elle va se faire piéger par le système. Elle a cru qu'elle était... Vous verrez. Et je prends date avec vous que dans les mois à venir, il y aura un clash avec Jean-Luc Mélenchon sur ces questions.
Alors, c'est à la fois plus grave et moins grave. Parce que j'ai regardé l'émission pour me rendre compte.
Le salut était bien.
Moins grave parce que finalement, c'est une sorte d'émission d'accueil où tout le monde rigole. Parce qu'il y a des sujets totalement mineurs. Alors... Donc moins grave parce que finalement c'est pour une tribune politique. Deuxièmement, l'habillage gramscien. Alors j'ai entendu qu'il fallait être de l'intérieur comme Gramsci. C'est une blague. C'est une façon d'habiller.
Théorique, bien sûr.
C'est une façon de dire qu'en gros elle a l'air hyper contente de faire ça, mais pourquoi pas. Mais cela dit, trouver quelqu'un qui travaille avec Jean-Luc Mélenchon, qui a une certaine idée de la politique, de l'éducation des masses entre guillemets, ou de la façon de ne pas traiter la politique de façon vulgaire et tout, et la trouver à côté de quelqu'un qui pérore sur une opération du pénis pour se l'allonger, il y a un moment donné où...
Ah, c'était ça
si
qui
vous
était
voulez...
vachement intéressant.
Ouais, d'accord.
On vous reconnaît bien.
Mais il y a un moment donné où soit la politique, on considère que c'est un truc, quelque chose de noble.
Bien sûr.
Et chacun à sa façon, on se bat, eux, nous, pour essayer de la présenter. Si ça devient une gigantesque rigolade... où effectivement on va à une conférence de presse, mais il n'y a pas que la question à Édouard Philippe, il y a toute une mise en scène où elle marche dans la cour de Matignon en disant « je vais aller essayer de savoir qui a écrit la loi travail ». Écoutez, franchement, nous on essaie de lutter contre pas cette dérive-là. Quand c'est à l'intérieur d'un parti politique qu'on fait ça, alors on peut dire que c'est pour faire de l'entrisme et faire valoir son point de vue. Ça, c'est un habillage haut,
théorique,
chic, Ouais. L'autre coup, c'est qu'elle fait une émission et qu'elle se retrouve avec des gens qui disent des choses pour rire.
Quel
c'est
le signal qui est envoyé aux Français?
Bah, c'est que, c'est, enfin, je sais pas, je peux pas parler au nom des Français.
C'est que les médias, ce ne sont que des clowns.
Et les politiques aussi.
Et que les conférences de presse n'existent pas.
C'est d'autant plus évident qu'ils essayent de monter la France Insoumise, ils essayent de monter une web TV. Donc elle avait la possibilité sur cette web TV d'être, non, je dirais...
Elle n'aurait pas été payée le même prix que chez Bolloré.
D'accord, mais...
Ça,
voyez,
je vous confirme. Donc, à un moment donné, il faut appeler un chat aussi.
Vous apportez une réponse particulière, voilà. Et je pense que c'est pas bien, voilà. Moi, personnellement... et pourtant, elle a du talent. C'est ça qui est terrible, elle a du talent. C'est une fille qui était une militante chevronnée. Et je comprends pas qu'elle se fasse piéger comme ça.
En fait, il y a une espèce de lente évolution qui s'est produite. D'abord, les hommes politiques se sont montrés dans des débats d'actualité. Puis après, ils sont allés dans les émissions de variété. Après, ils sont allés s'exhiber leur vie privée. Il y a eu ces émissions où on exhibait sa vie privée. Et puis maintenant, il y a cette frontière invisible qui fait qu'on n'y comprend plus rien, qui passe par la fiche de paye, en réalité. Parce que moi, je comprends très bien quand Julien Drey dit, bon, écoutez, je vais sur LCI, mais j'y vais bénévolement en tant que militant socialiste. Bon, bah, finalement, on est dans la logique de l'actualité.
Oui, ça existe depuis
très longtemps.
À partir
du moment où quelqu'un, tel ou tel, se fait payer, devient un amuseur, un journaliste, c'est parce que finalement, ils vont pas tellement dans des émissions d'actualité, ils vont beaucoup dans des émissions qui sont de divertissement. Là, c'est vrai que...
Est-ce que vous pensez que la néo-démocratie... Est-ce que vous pensez que ça a une conséquence avec, par rapport aux élections qui ont été faites cette année ? Ou pas du tout.
Je sais pas si c'est
avec le changement de la vie politique.
Probablement que tout est. On n'a plus de repères. On n'a plus de repères. Donc tout est dans tout. C'est-à-dire que quand on demande à Raquel Garrido, et la question lui a été posée en disant, ça vous dérange pas d'être payé par Monsieur Bolloré, qui n'est pas le diable, je le précise, mais qui a peut-être une vision de la déontologie journalistique qui est à géométrie variable. Elle dit, mais je ne suis pas payée par Vincent Bolloré, je suis payée par la maison de production. Bon, petit Thierry Ardisson. Donc. Très bien. Alors, c'est Gramsci, c'est de l'entrisme, c'est pas payé directement. Et après, elle a même rajouté que les journalistes du service public étaient payés par l'État et que comme ça, on devrait être aux ordres. Bon, faut arrêter. Alors, il y a dans le dégagisme tout le système qu'on a connu depuis des semaines, l'idée que tout est dans tout réciproquement et que tout est possible. Et que le vieux est mort et que le reste reste à créer, qu'on invente des trucs. Sûrement, mais inventer des choses et que tout soit possible ne veut pas dire que n'importe quoi est bien. Donc il faut quand même qu'on reste de temps en temps structuré sur deux ou trois choses de base. Si on veut que les gens aiment la politique et s'y intéressent et que c'est pas simplement un truc de pourri, on essaie d'expliquer, de faire un éloge de la complexité et non pas des simplifications comme c'est fait dans certaines émissions. Et puis, les politiques ont totalement le droit de poser des questions à la place des journalistes, mais ils le font en tant que politiques, en tant que gens ou retraités de la politique. Et nous, on essaie de faire notre boulot.
Julien Drey et ensuite Roselyne Bachelot, qui a levé la main. Quelle bonne écolière.
Et après Bertrand.
Qui a levé la main aussi.
Non, je voulais revenir parce que sinon... Ça aurait pas été bien de répondre à la question que vous m'avez posée sur Bruno Roger Petit.
Ah bah c'était dans la première partie, vous l'avez pas oublié. Super.
Il y a 48
minutes. Il fait avancer le débat. C'est bien de faire avancer le débat.
Non, j'ai un Alzheimer précoce, mais qui est pas encore arrivé à maturité.
Non, mais vous avez un bon esprit d'escalier.
Alors voilà. Ce qui m'a surpris dans Bruno Roger Petit, c'est pas
que nouveau porte-parole de l'Élysée.
C'est pas qu'ils franchissent le Rubicon, c'est qu'ils deviennent porte-parole. Voilà. Il serait devenu directeur de la communication, ou responsable de la communication du président Macron. J'aurais dit, bon, d'un certain point de vue, il met son expertise au service du président. Porte-parole, ça, c'est plus problématique.
Surtout que c'est quelque chose, une fonction qui avait disparu depuis des années.
Oui, mais qui était, d'après moi, nécessaire pour Emmanuel Macron, au regard de la situation dans laquelle il se trouve.
Ça, c'est l'homme du PS qui parle.
Et je pense que, d'ailleurs, ça va être très compliqué pour lui. Voilà. Je pense qu'il s'est mis dans une situation très compliquée.
Roselyne,
vous posez une question fondamentale. Est-ce qu'on peut relier le phénomène qui s'est passé cette année avec cette irruption massive qui n'est plus anecdotique de politiques qui font un métier de journaliste et de journalistes qui font un métier politique avec ce qui s'est passé avec l'élection d'Emmanuel Macron et d'un bouleversement total de la politique? C'est une question cruciale. J'ai dit ce que j'en pensais en pensant qu'on était sur un mouvement global à travers la VOD et les chaînes d'information. Ceci étant, il y a quand même un lien avec ce dégagisme, ce bouleversement des valeurs, cette négation des valeurs. Moi, en regardant les jeunes députés de la République En Marche arriver à l'Assemblée, je me rappelais de notre arrivée à Julien Drey, chacun pas dans le même clan idéologique, le même parti, mais J'avais fait, c'était sur France 2, j'avais fait avec une députée socialiste, on avait été invité dès notre arrivée. Moi, je parlais des agriculteurs de ma circonscription. Elle, c'était Frédéric Bredin, parlait des marins pêcheurs de la Sienne. On était arrivés avec nos idées, des gens qui étaient avec nous, derrière nous. Et en écoutant ces jeunes députés de La République En Marche, ils ne disaient qu'une chose, nous on est venus pour défendre Emmanuel Macron. Ils ne parlaient ni d'idées, ni de personnes. Et je pense que ce bouleversement des valeurs, il facilite aussi les passages d'un côté à l'autre. Il y a finalement plus de repères, plus de valeurs. Donc la question que vous posez, Laurent Goumard, elle est tout à fait légitime.
Mais je pense que l'autre écho aussi, c'est que effectivement Emmanuel Macron était le symptôme d'une forme d'épuisement du système politique classique, et de la même façon cette espèce de porosité qu'on a pu constater, je pense que c'est aussi la conséquence d'une presse historiquement en France qui est une presse d'opinion beaucoup plus qu'une culture de l'investigation depuis très longtemps, et à mesure qu'il y a un effondrement idéologique, cette presse d'opinion a du mal aussi à exister, et on a affaire aussi à des politiques qui sont confrontées à une forme de, on va dire, d'effondrement idéologique. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la pratique du pouvoir, finalement, entre ce que va faire un gouvernement au centre droit et un gouvernement au centre gauche, la ligne de position devient de plus en plus difficile à appréhender. Et au fond, on est dans cette espèce de confusion. Et c'est normal qu'on ait créé cette porosité-là, me semble-t-il.
Et on est dans une confusion liée à l'époque nouvelle, confusion du produit. C'est-à-dire que les partis politiques aujourd'hui, avant, étaient structurés selon le centralisme. Et aujourd'hui, aussi bien la France insoumise que la République en marche sont des structures qui relèvent aussi bien de l'entreprise que du site internet, que du parti.
23h47, Clara Luciani s'invite dans le débat. Christophe Bourseilly avec son monstre d'amour.
Je suis ravi.
J'espère bien.
Vraiment, hein.
C'est comme si j'étais devenu un monstre d'amour. Mes jambes flanchent, mon cœur est lourd. Je finirai par m'étouffer dans tout ce velours. J'ai beau hurler, mes cris sont sourds. Dis-moi pourquoi je sombre dans des eaux, dans des ombres dans lesquelles je me noie. Dis-moi quelle est cette colère qui me tord, qui m'atteuve, que je ne connais pas. Comme si j'étais transformée en monstre d'amour, et j'ai perdu famille et bravoure. Mes yeux ont appris par cœur tes formes et tes contours. Il les devine quand s'éteint le jour. Dis-moi pourquoi je sombre dans des eaux, dans des ombres dans lesquelles je me noie. Dis-moi quelle est cette colère qui me tord, qui m'atteuve, que je ne connais pas. Qui me tord, qui me tord, que je ne connais.
nouveau rendez-vous.
Rendez-vous.
Laurent Goumard.
Quand les politiques conseillent les journalistes, que les journalistes. Non, quand les. Moi-même,
vous allez y arriver.
Je suis en pleine confusion. Mais que les politiques se reconvertissent dans la vie médiatique, c'est le sujet de l'énervé ce soir. On en parle avec nos quatre invités, Bertrand Delay, Julien Drey, Nathalie Saint-Cric et Roselyne Bachelot. Vous vouliez intervenir, Christophe Bourcier.
Oui, moi j'ai été absolument sidéré par ce que disait finalement Roselyne Bachelot, qui était une vision très, très juste et très, très claire et très machiavélique et presque debordienne de la vie politique, disant finalement, ce n'est plus qu'une affaire de storytelling. Tout ça est accentué par le fait que les partis deviennent des sites internet. Et dès lors, ben j'ai envie de me tourner peut-être vers vous, Nathalie, est-ce que ce n'est pas un signe très inquiétant de dégradation du dialogue démocratique en ce moment en France ?
Si, c'est un signe très inquiétant, mais je ne suis pas persuadée que ça va aller aussi loin que ce que prédit Roselyne, enfin je l'espère. Mais on ne peut pas à la fois pousser des cris d'orfraie sur les fake news et ce genre de choses. D'ailleurs, dans l'émission de Thierry Ardisson, il y avait aussi une rubrique derrière sur fake news. Et on jouait finalement, en entendant toutes ces rubriques, on se demandait si c'était des vraies infos.
Il en a toujours joué là-dessus, hein,
mais Ardisson. Mais oui, mais je pense que d'abord, les gens qui écoutent ces émissions ou qui regardent la télé, qui écoutent la radio, tout ça, sont des gens qui sont assez malins. Il ne faut pas prendre les téléspectateurs ou les auditeurs pour des ânes. C'est-à-dire que on verra s'il y a une sanction, soit par l'audience, soit par une espèce de sursaut démocratique qui est de dire « j'en ai marre de tout ça, si on se fiche de moi ». Je pense que les gens sont assez sages, donc je ne pense pas qu'on va aller dans une confusion et un chaos total. Il y a quand même toutes les chaînes ne font pas tout et n'importe quoi et toutes les radios ne font pas tout et n'importe quoi. Donc il y a quand même des îlots sérieux de résistance et je pense que la population française qui adore la politique en général est une population suffisamment mature pour ne pas tout mélanger et un jour, si ça va trop loin, se rebeller et boycotter ce genre de choses. Alors peut-être que je suis naïve, imbécile ou que l'heure en faisant, je suis très optimiste, mais je pense qu'on va vivre une espèce de magma là pendant quelques mois et puis que les choses vont reprendre leur cours avec.
Non, Nathalie, il y aura des morts hein, dans cette.
J'adore cette expression.
Il y aura des morts.
Il y aura des morts
parce que ce sont les bons.
Ces grands groupes ne sont pas des bureaux de bienfaisance. Hein. Les chiffres de l'audimat tombent tous les matins pour la télévision et tous les 3 ou 4 mois pour la radio et tout de suite on regarde ce qui se passe. Jean-Louis Debré qui était un homme tout à fait estimable a fait un passage sur Paris Première, les audiences étaient mauvaises
sur Europa 1,
il s'est fait liquider de cette
façon-là.
Les émissions ont été supprimées, pas lui spécialement, il faisait pas d'audience, allez hop à la poubelle, c'est comme ça.
Alors, il y a juste une réflexion de Véronique Marchand, qui est journaliste à Dimanche en politique sur France 3 dans les Hauts-de-France. Et elle dit, et c'est assez intéressant, les Français ont balayé la classe politique, on parlait de ce dégagisme, ils ont exprimé leur envie radicale de changement. En recrutant tous ces anciens, donc ceux qui ont été balayés, les médias sont en total décalage avec leur public. Vous pensez cela, vous aussi, Bertrand Delay, Julien Drey ?
Bertrand Delay. Total décalage, je ne sais pas. C'est-à-dire, je pense en tout cas qu'il y a une. On est dans un peuple, ce que dit Nathalie, très très politique. Et je suis pas complètement sûr que l'idée effectivement du recyclage de tel ou tel soit l'écho le plus évident. Mais en même temps, il y a des demandes totalement paradoxales. C'est-à-dire que on peut dire ça, puis on peut vous dire, on va prendre les sondages d'opinion, on va vous expliquer qu'il n'y a pas assez d'émissions culturelles à la télévision, et le sondage va être.
Qui ont augmenté leur audience,
et quand on va mettre des émissions culturelles, personne ne les regardera pour autant. Donc il y a aussi une schizophrénie de l'opinion publique par rapport à ce genre de choses.
Julien Drey.
Moi, je pense que plus une analyse générale, il ne faut pas survendre l'élection présidentielle. Je pense qu'on a survendu l'idée du dégagisme, de la vague de fond, de changement, etc. Parce que je vais vous dire une chose, ça s'est joué à pas grand-chose sur le fond. Il y a des décisions politiques qui auraient pu changer totalement la lecture de l'élection
présidentielle. Enfin, quand même, Julien.
Non, je vous dis une chose.
C'est un vrai politique.
C'est vraiment la parole d'un politique qui presse.
Mais je vais vous dire une chose très simple, parce que je pense la droite aurait été un minimum intelligente et elle faisait le changement, c'est-à-dire elle sortait Fillon, dont tout le monde savait qu'il allait droit dans le mur, et elle mettait Juppé. Je suis pas certain que vous auriez aujourd'hui, on serait en train de parler du dégagisme, la profonde volonté de machin, etc.
Enfin, regardez quand même ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale.
Mais après, non, mais
attendez, oui, ça, alors là, on est dans la logique de la Ve République qui défait majorité au président.
Février, hein, voilà, nous on le sait. Il y a c'est justement le problème de cette inversion du calendrier, de ce que représente. Voilà, c'était évident. C'était, il y a une problème. Bah, les gens, ils sont cohérents. Ils ont élu un président, ils vont pas l'empêcher de gouverner. Donc c'est pas vrai.
Pourtant, voilà. C'est ce qui avait été prédit, c'est-à-dire qu'il y aurait une sanction au niveau de l'Assemblée.
C'est des alors là, ce journaliste-là, d'après moi, il faut qu'il retourne à l'école.
Non, c'est pas possible dans la cinquième.
En plus, il y a une chose, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de ne plus voir, ou plus exactement, plus avoir envie de voir un certain nombre d'hommes politiques. Alors, c'est ce que disait Rosine, c'est dans les codes de popularité d'Hollande, si on attend bien dans 3 mois, il va être le plus populaire de tous les Français.
Et
avoir envie, peut-être, de les voir dans un autre rôle. Donc, la réflexion qui est de dire, on les a dégagés, on ne veut plus les voir, même chroniqueurs, je sais pas, c'est pas forcément ça. C'est que, dans ce qu'ils représentaient, éventuellement avec leur langue de bois et leur façon de toujours présenter sous leur meilleur jour un certain nombre de choses, les revoir différemment. Moi, je pense que si on mettait Hollande, François Hollande, pardon, dans une émission et tout, ça ferait pas forcément fuir s'il peut enfin parler. Ou plus exactement, bon, hein. Faire commentateur, mais il l'a beaucoup fait pendant le quinquennat. Donc
oui,
ça
exactement.
Pas
le livre est un parfait commentaire politique.
Puis à partir du moment où les politiques quittent leur rôle de politique pour devenir des personnages romanesques, les Français adorent les losers. C'est-à-dire qu'ils deviennent quelque chose d'intéressant. Et ça marche tout à fait avec le dégagisme. On t'a dégagé de la politique. Et
donc on veut te voir.
Et on veut te voir. On veut te voir souffrir. On veut te voir être humilié. On veut te voir venir quémander ce rôle. Dans la presse ou dans le journalisme. Moi, je trouve que le sadisme de l'opinion publique est un pur délice.
C'est terrible et c'est affreux parce qu'elle parle toujours avec une espèce de dureté machiavélique là, qui est absolument épouvantable. Non, mais bien sûr, mais le problème, c'est que ces noces incestueuses, finalement, elles accréditent l'idée que politique et journaliste, ça forme une espèce de couple consanguin, que c'est le même milieu.
C'est la vérité.
Et curieusement, on n'a pas parlé du Front National.
Mais il faut faire attention, justement.
Alors qu'au fond, c'est vrai
que
ça profite aussi au populisme.
C'est ça que je voulais dire. Quand même, il y a un grand absent là dans cette rentrée. Ouais. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'au moment de son université d'été, Marine Le Pen joue là-dessus. Il faut faire attention que justement ça n'alimente pas ce qui est le plus dangereux pour notre démocratie, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une collusion politique et que les hors-système, ce sont qu'eux à raison. Et c'est en ce sens-là que Mélenchon fait une erreur, c'est qu'après avoir expliqué qu'il était hors-système, progressivement ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est totalement dans le système.
Oui, mais enfin ce que j'ai trouvé très éclairant et très inquiétant, c'est l'atelier qu'il y a eu
Marseille.
À l'université d'été de Marseille, où véritablement les médias ont été conspués, insultés gravement. Et à partir du moment où quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, que je prends pour un homme de qualité, même si je ne partage pas ses idées, tombe dans ce piège, dans cette facilité, c'est extrêmement dangereux. Là, j'ai été très choqué.
Bertrand Delay.
Je pense que Mélenchon, il y a un moment où il ne sait plus complètement où il est. C'est-à-dire que, au fond, il est parti dans un truc. Dans un populisme absolu, ce qui explique son hésitation de l'entre-deux-tours d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au fond, il sait très bien dans les gens qu'il y a une porosité de gens du Front National qui sont allés chez Mélenchon, il veut les garder, et au fond, il épouse un discours complètement populiste. Mais comme il sait aussi, par rapport à sa culture de gauche, que c'est impossible.
Il veut bien
de la voix, mais il veut pas dire qu'il va au bordel. Donc en fait, c'est un peu son problème à Jean-Luc.
Eh ben, on va terminer là-dessus. Ce sera le mot de la fin, peut-être. Le mot de la fin, peut-être, Christophe Bourcelier.
Ben, écoutez, de notre ami Brice Couturier, les médias sont aujourd'hui le refuge des dégagés.
Merci à tous les quatre. Roselyne Bachelot, on vous retrouve sur LCI tous les matins dans La République LCI. On peut vous lire dans Nice Matin et le vendredi, vous êtes aussi à la radio dans la matinale de Saskia Deville sur France Musique. Julien Drey, on vous retrouve une fois par semaine sur LCI en débat face à Nicolas Bétou de L'Opinion. Nathalie Saint-Cric, on peut vous suivre sur France 2.
Vous pouvez me retrouver à l'Assemblée Nationale ou sur l'actualité, si vous voulez.
Exactement. Et bientôt dans la nouvelle formule de l'émission politique présentée désormais par notre consoeur Léa Salamé. Enfin, Bertrand Delay, en attendant votre prochain film, on peut lire votre blog sur le site du Huffington Post. Merci à vous quatre.
Merci.
Mais que s'est-il vraiment passé pendant 2 heures dans ce nouveau rendez-vous ?
La vidéo à la demande a besoin de créer des personnages de romans.
Le sommet du livre érotique, c'est La Princesse de Clèves.
Et c'est plus qu'explicite, enfin, ça raconte tout, quoi.
Écoutez, franchement, nous, on essaie de lutter pour pas cette dérive-là.
Dans la vie d'un garçon, j'imagine que vous n'allez pas me contredire, c'est quand même absolument...
Bah, les prétendants continuent de ne pas manquer. Oh, le plus beau prix du monde.
Le plus gros bruit du monde, c'était un bouchon de champagne pour Amélie Nothomb. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr écouter, podcaster l'émission. À la réalisation ce soir, Jérôme Boulet, Juliette Médevielle, préparation Virginie Rouzic, Corinne Valente et Benoît Lagan. Demain, 22h minuit, on sera là avec ça.
Il y a peu d'enjeu. Olivier Giroud qui frappe et qui délivre.
40 ans de téléfoot, ça se fête. En première partie, Yannick Enel, fou de mec El Chemino avec son nouveau roman Tiens ferme ta couronne. La réalisatrice Fiane Troc pour un film absolument choc sur une jeunesse paumée, victime d'inceste maternel. Ça s'appelle Home. Et Ben Mazuet partira en live avec La Femme Idéale, c'est son nouvel album. Voilà, je crois que là, tout a été dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.
Rendez-vous. Tu vas donner rendez-vous demain.
Il est minuit sur France Inter, Élodie Forest, le journal tout de suite.